telefon på.
Votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole dans ce nouveau numéro de Paroles aux auditeurs. Le vendredi 20 novembre dernier a été organisé un meeting aérien au-dessus de la capitale avec à l'affiche des chasseurs bombardiers angolais et congolais. Que vous inspire cette patrouille aérienne militaire mixte congolo-angolaise? Vous pouvez participer à cette émission directement en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Vous êtes nombreux à avoir lu et commenté ce sujet. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats. Paul Badiania m'assure la mise en onde de cette émission qui est réalisée par Marcel Ngombombala. Keba, ce programme est coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Dialogue entre Congolais accorde la parole aux auditeurs de Bunia et Ituri à partir de la semaine prochaine.
Retrouvez toute l'équipe de DER dans la salle de conférence de la MONUSCO Bunia pour une série d'émissions spéciales grand public.
Au menu,
la paix,
la sécurité,
l'économie,
le social
et la politique de la province de l'Ituri. Dialogue entre Congolais à Bunia pour mieux servir les auditeurs de la fréquence de la paix.
Voilà, merci beaucoup. Alors, Amos, vous nous avez rejoint pour ce débat. Vous êtes en ligne depuis Bukavu. Amos, bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Alors, vous avez suivi l'actualité comme nous, ce meeting aérien. Qu'est-ce que cela vous a vraiment inspiré?
Vraiment, JR, je dois le dire devant le peuple congolais. Pour moi, ce qu'on a suivi le vendredi, ce que le gouvernement nous a appelé meeting aérien, c'était une distraction, c'était une aventure. Pourquoi je le dis? Parce qu'on ne sait pas pour quelle raison on a fait ce meeting aérien à Kinshasa. Le lieu qu'on amène cette activité à l'Est, et plus particulièrement à Beni, où le carnage de nos compatriotes continue matin, midi et soir, on a voulu organiser cette activité à Kinshasa, on ne sait pas pour quelle cause. Et en analysant cette activité, on peut justement comprendre que jusque-là, il y a problème au niveau du pays. Et par rapport à ce qu'on est en train de débattre, pour ce qui est de la coalition qui se cache, apparemment, il y a des gens qui disent que c'était une manière pour le gouvernement ou la présidence de vouloir montrer à ses partenaires cachés que non, le SS, que la présidence est prête à tout. Ce qui est déjà grave. Parce que pour beaucoup de Congolais, on pensait qu'on devait amener cette activité à l'Est, où les ADF Nalu ne cessent de causer des atrocités au peuple congolais. Bébé, il faut comprendre dire que cette activité a imposé des moyens colossaux au gouvernement congolais. C'est une activité qui a pris beaucoup de moyens financiers. Au moment où nous tous nous connaissons qu'aujourd'hui, le pays a des sérieux problèmes financiers. Là, on vous dit que non, il y a des agents de l'État qui ont connu des problèmes pour ce qui est de leur salaire. Il y a des enseignants jusque-là qui continuent à exiger les accords de Bibwa, la prime qui revient avec force, étant donné que le gouvernement n'a pas pu répondre aux exigences des enseignants, et beaucoup d'autres problèmes aujourd'hui au pays. Mais on ne comprend pas comment on est parti louer des avions angolais. Le fait qu'on a donné de l'argent à l'Angola, parce que l'Angola ne devait pas accepter d'envoyer ses avions sans condition absolument rien, ou peut-être qu'il y a des conventions qui auraient été faites, la suite nous dira. Mais pour nous, nous pensons que vraiment c'était une distraction. Et c'est là que je suis en train de condamner que, apparemment, le président est très mal entouré. Il serait entouré de flatteurs, au lieu de lui donner de bons conseils par rapport aux réalités de notre pays, parce que
alors,
de sérieux problèmes.
Alors, quel regard portez-vous sur cette décision prise au sommet de l'État sans que cela soit passé par le Parlement? Est-ce que l'histoire quelque part ne se répète pas avec l'arrivée des Rwandais, par exemple la patrouille rwandaise dans la partie est de la République et qui a coûté d'ailleurs le départ des Camerés en son temps du PPRD et même
tout
du perchoir de l'Assemblée nationale.
Oui, tout à fait, JS, c'est encore une violation très grave. Et c'est là que j'ai dit que le président serait très mal entouré actuellement. C'est une violation très grave de notre constitution, parce qu'on ne comprend pas comment on devrait engager une telle activité au pays sans que l'Assemblée nationale ne soit informée. Vous vous souvenez, vraiment, vous venez de le dire, c'est écouté, Vital Kamerhe, un problème sérieux, quand la présidence s'était encore décidée d'inviter les éléments rwandais au pays. Au moment où l'Assemblée nationale, comme le prévoit notre constitution, n'a pas pris un débat de cette question pour donner son aval, c'est le même cas que nous venons aujourd'hui de vivre. C'est là que j'ai évoqué que le président serait actuellement mal entouré. Très mal entouré, il se ferait entourer de flatteurs, des gens qui ne voient que leur argent, au lieu de débattre de vrais problèmes de la nation, au lieu de donner de bons conseils au chef de l'État, pour ne pas tomber dans des cas que nous sommes en train de débattre aujourd'hui. Comment comprendre qu'on a engagé des avions étrangers au moment où l'Assemblée nationale, cette question n'a jamais été débattue au niveau de l'Assemblée nationale. C'est un danger pour la République.
Merci beaucoup, Amos, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Vous estimez qu'il aurait été mieux que ce meeting soit fait au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo et plus précisément à Beni. Et pourquoi à Kinshasa? Pour quelles raisons? C'est la question que vous vous êtes posée. Parce que jusque-là, il y a tant de problèmes dans le pays au niveau des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Pourquoi mettre des moyens colossaux dans cette affaire? Bon, nous, on n'a aucune idée sur ce que le gouvernement a déboursé comme financement afin d'organiser ces meetings. On aura peut-être des précisions avec notre invité. Mais vous avez signalé comme enjeu politique, c'est une démonstration des forces, un signal, disons, d'avertissement lancé par l'UDPS qui est parti au pouvoir à ses partenaires, notamment les FCC. Et vous estimez qu'effectivement, c'est une distraction. Et dans le deuxième aspect, parmi les enjeux politiques, vous estimez aussi qu'il s'agit là d'une violation du fait que l'Assemblée n'a pas été mise à profit. Merci beaucoup, Amos, d'avoir appelé. Christian, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans la parole aux auditeurs. Christian, vous êtes avec nous ?
Bonjour, JR, et bonjour à l'invité et aux auditeurs.
Vous avez la parole, Christian. Quel est votre commentaire ? Que vous inspire cette invitation de l'armée rwandaise ?
De l'armée angolaise. D'abord, il faut d'abord commencer à contextualiser le fait. L'armée angolaise est venue avec ses hélicoptères. Dans quel contexte ? Nous traversons un contexte très difficile où vous avez un président qui a pris conscience de la réalité de son pays et il veut mettre fin à la gabegie qui règne et de se fier à un certain coup qui ne veut pas que ces choses changent. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains individus qui font entrer des armes ici pour chercher à mettre le pays sous le feu. Donc voilà pourquoi le chef de l'État a fait appel à un voisin pour faire montrer à la face du monde, notamment à ceux qui se font appeler Congolais, que si jamais ils osaient faire du n'importe quoi, non seulement l'armée congolaise va s'en charger, mais aussi nous avons d'autres appuis. Jean Ndiambo, d'aucuns se posent la question, est-ce que l'Assemblée a été contactée, tout ça, mais nous avions vu les mêmes pays, l'Angola intervenir ici avec ses moyens logistiques pour la campagne, pour les élections. Les hélicos angolais ont survolé notre pays, ont survolé le territoire national pour aller accompagner l'équipe électorale. Est-ce que l'Assemblée nationale a été contactée? Pourquoi cela n'a pas soulevé débat? Parce que la question électorale est aussi une question majeure, est aussi une question de la souveraineté. Notre souveraineté n'a-t-elle pas été mise en jeu, Jérôme Gembo? Non. Il ne faut pas concevoir les choses de cette manière-là. Et donc, moi, je crois que tout porte à penser à ce moment, tout porte à penser que ce meeting a été un signal fort à l'endroit de quiconque qui oserait mettre le pays à feu et à sang. Et au-delà de ça, cela pourrait également attirer l'attention du chef de l'État si jamais il n'appliquait le schéma américain. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, les puissances ne veulent plus que les chefs de l'État continuent avec son partenaire qui a coupé son peuple dans la misère. Et si les chefs de l'État continuent avec celui-ci, eh ben, il y aura d'autres forces qui vont entrer pour soit les débouter, lui et son partenaire, ou encore changer la donne. Mais au-delà de ça, Jean Lungembo, c'est que Kingakati, aujourd'hui, selon eux vraiment, elle pense que Kingakati pense que l'appui ou encore les différentes positions prises par la communauté internationale est un atout qui apaiserait les chefs de l'État, qui ferait en sorte que les résolutions prises, que les chefs de l'État vont prendre à l'issue de ces consultations ne soient pas de nature à mettre une fin entre eux. Mais nous, nous croyons que la RDC va désormais écrire une autre histoire. Et donc, il ne faut pas chercher à donner beaucoup plus d'interprétations par rapport à ces survols. Ce n'est qu'un phénomène normal. L'Assemblée nationale, je crois, en fait, c'est une question d'intérêt national. Et l'Assemblée nationale, aujourd'hui, posez-vous la question si hier l'Assemblée nationale était intervenue. Et même si aujourd'hui, je crois que la vie du pays n'est même pas mise en péril. Et aujourd'hui, il ne faudrait même pas comparer les survols des Angolais avec la présence militaire rwandaise là-bas à l'est qui a goûté la tête à Kamere. Cela n'a rien à voir. Donc, c'est, en fait, je dirais, il n'y a même pas raison de les comparer, de comparer ces deux faits, Jean Lungembo.
Merci beaucoup, Christian Politassi, d'avoir appelé de Kinshasa. Pour vous, vous estimez que la souveraineté de la RDC n'est pas mise en mal, parce que, bon, le monde est aujourd'hui considéré comme un même village. Nous sommes dans la mondialisation et les États s'entraide. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'amitié entre les États, il n'y a que des intérêts. Mais néanmoins, nous avons vu par le passé l'ancien régime faire appel également à d'autres armées étrangères pour venir en aide, même lorsqu'il s'agissait des questions électorales. On a vu l'armée angolaise venir en aide aux côtés de l'armée congolaise pour transporter les kits électoraux. Merci beaucoup, Christian Politassi. On va apprendre Aloïs qui nous a appelé de Luisa. Là, nous sommes au Kasaï. Aloïs, vous êtes avec nous, bonjour. Aloïs, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne d'Aloïs. Laissons de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également participer à cette émission en composant les 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Héritier, vous êtes à Kisangani. Bonjour, héritier.
Oui, bonjour, Radio Okapi.
Quel est votre commentaire par rapport à cette invitation de l'armée rwandaise, pardon, l'armée angolaise, sur le ciel congolais?
Oui, j'étais en train de dire que l'échange d'expérience, prendre les avions au niveau de l'Angola, je ne vois pas vraiment son importance sur la diplomatie. La diplomatie n'est pas militaire. On peut avoir des avions qui circulent la capitale. À quoi cela va faire améliorer la situation de nos forces armées sur terrain? S'il faut peut-être faire une coopération militaire, il faut regarder à l'est du pays, là où les gens meurent chaque jour. À quoi bon alors de coopérer pour prendre des avions, échange d'expérience entre le pilote congolais et le pilote angolais? Voilà. Mais du moins, nous avons besoin en RDC d'une armée forte capable de persuader les menaces internes et les menaces externes, au lieu de se limiter à une armée infiltrée, là où chaque jour, on est en train d'enregistrer le perte en vie humaine. Il y a toujours des incursions de maïmaï, il y a des incursions des ADF, tout ça. Nous voulons que l'État puisse être sérieux dans les activités sur terrain. Il y a quel genre de guerre qui ne pourra pas faire en RDC? Alors, si nous voulons peut-être aller de l'avant dans le cadre de la coopération militaire, il faut regarder le vrai besoin de l'armée en équipement. Il faut remanier le dirigeant de l'armée qui sont à la base même de la sécurité à l'est du pays. Voilà un peu ma contribution dans ce sujet.
Oui, mais vous avez suivi vos prédécesseurs, Aloïs, et lorsque, pardon, héritier, quand vous écoutez que les problèmes, l'histoire se répète dans notre pays, nous avons connu par le passé l'invitation de du Rwanda, l'armée rwandaise, sur le sol congolais qui a soulevé de tollé. Alors, est-ce que la même situation ne risque pas de se reproduire dès lors que l'Assemblée nationale n'a pas été mise à profit?
Mais c'est ce que je suis en train de dire. Nous avons d'abord, il faut souligner que nous avons connu à Kisangani la guerre de 6 jours. Des armées, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, qui avaient tué le citoyen congolais dans la ville de Kisangani. Pourquoi ces gens-là ont quitté leur pays venir se battre chez nous? Nous avons suivi l'incursion de M23. Est-ce que nous avons une armée responsable? C'est la question que je me pose. D'où le Parlement doit être prudent, avoir des lois qui vont donner des moyens à l'armée, et aussi, non seulement le moyen, il faut aussi la stratégie. Parce que pour atteindre les résultats, il faut avoir des bons stratèges sur le terrain, en termes de guerre. Les bons géopoliticiens, les gens capables de travailler comme des Mamadou, ils vont travailler pour le Congo. Voilà un peu ma contribution, monsieur le journaliste.
Alors, quand vous parlez de la géostratégie, c'est vrai, il y a déjà des commentaires sur notre page Facebook. Beaucoup de commentaires viennent un peu dans ce sens-là. Il faudrait utiliser. Mais lorsque vos prédécesseurs insistent pour dire que c'est un signal lancé à l'endroit des partenaires, que l'UDPS, parti au pouvoir, a lancé à l'endroit de ses partenaires politiques, est-ce que vous partagez cet avis?
Bon, je ne suis pas ni pour ou ni contre cet avis. Mais du moins, j'étais en train de souligner que le partenaire doit travailler avec nous. Oui, on ne récite pas. On a la MONUSCO. Qu'est-ce que la MONUSCO fait exactement avec notre armée? On fait multiplier des partenaires, ce n'est pas sérieux. Pour que l'armée soit respectée, prenons l'époque de Mobutu. On avait une armée respectable, d'abord sur le plan interne et même sur le plan international. Mais maintenant, là, nous avons quel genre d'armée? Nous avons des généraux, peut-être des binationaux, qui n'ont pas le souci de travailler, défendre l'intégrité territoriale comme il se doit. C'est ce que nous regrettons. Nous voulons revenir sur le bon sens. Une armée responsable est capable de faire face aux menaces internes et aux menaces externes. Même si on fait les partenariats, il faut peut-être cadrer ces partenariats. Quels sont les vrais besoins de l'armée pour mettre fin à ce genre d'incursion dans notre pays?
Merci beaucoup, héritier, d'avoir appelé de Kisangani. Dani, vous nous avez écrit, vous avez dit, vous êtes en Bujimai, dans le Kasaï oriental, vous avez une préoccupation. Est-ce que la coopération militaire, là, ne peut ouvrir d'autres portes aux voisins pour qu'ils commencent à nous piller? C'est la question que vous posez. Alors, Mouzé Kaisingika, depuis le Nord Kivu, dit, bonjour les auditeurs de Radio Okapi, moi c'est Mouindo Kaisingika. Mon avis est que ces bombardiers soient les bienvenus, mais qu'ils soient des avions de prestige, mais des protections pour les paisibles citoyens et non pour leur fierté simplement. Patrice Mouderoy, cette patrouille aérienne mixte des militaires angolaises nous inspire une relation diplomatique basée sur une coopération militaire et sécuritaire entre ces deux pays voisins, mais d'aucuns se demandent si nous pouvons faire des patrouilles aériennes alors que l'insécurité persiste dans l'Est, pourquoi avoir choisi Kinshasa seulement? Voilà, on va prendre Sylvain qui est à Bounia. Sylvain nous a rejoint. Sylvain, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors Sylvain, nous avons tous appris qu'il y a eu le meeting aérien entre l'armée, disons, par l'armée congolo-angolaise, l'armée mixte. Alors quelle est votre réaction? Qu'est-ce que cela vous inspire, cette invitation?
Vous savez, nous, c'est depuis déjà 2017, même 15, que nous avions sollicité par rapport à la crise en RDC, que notre pays puisse avoir une coopération bilatérale et multilatérale avec les pays voisins, sur beaucoup de domaines. N'oubliez pas que le monde aujourd'hui évolue dans les sens de coopération et d'intégration régionale, sous-régionale et internationale. Et comme vous le savez bien, puisque vous avez posé une très bonne question, est-ce qu'il faut limiter la question de la sécurité au niveau de Kinshasa? Les plus grands thermomètres de la sécurité en RDC, c'est la partie orientale du Congo, je l'ai toujours dit. Les trois provinces que j'ai toujours citées, l'Ituri, le Nord, le Kivu. Et lorsque vous voyez maintenant l'anthropologie de la rébellion, même lorsque vous voyez la physionomie de la rébellion dans les pays, en fait, vous regardez les Rwandais, vous regardez l'Ouganda, les Burundi, tous ça, ça pose un problème, même à un moment donné, quand Odessa menace la partie australe, nous regardons la Zambie et consorts. Mais la question qui se pose aujourd'hui ne doit pas se limiter au niveau de la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Angola, c'est pratiquement avec tous ces pays de la sous-région, je l'ai toujours dit, et ça c'est un truc qui m'engage moi-même. La RDC, mon pays, fait l'objet de la convoitise de toute la terre. Et lorsque j'échange avec les intermondialistes, je les ai toujours dit, il faut que nous puissions arriver à monter une politique internationale, sous-régionale et régionale, puissante, qui puisse permettre à ce que toutes les coopérations que nous allons nouer avec les États voisins puissent bénéficier à la stabilisation et à la stabilité de notre pays. Vous posez une bonne question, qu'est-ce que nous pouvons gagner aussi de cette coopération militaire entre l'Angola et la RDC? Nous avons une histoire avec ces pays. C'est la même façon, c'est de la même façon que nous avons aussi une histoire avec l'Ouganda. Je sais pas le territoire des Mandi. Lorsque vous avez suivi ici, il y a eu une incursion de groupes armés de Codebo en territoire des Mandi. La population des Mandi avait déjà développé les tensions de recourir à la République de l'Ouganda pour avoir le soutien et la sécurité de leur territoire. C'est de la même façon, s'il y a un problème, par exemple, aujourd'hui, au niveau du nord du Kivu, en réalité, le Congo devait coopérer avec les partenaires de l'économie pour qu'il y ait la sécurité. Pour moi, la question de la coopération congolo-angolaise devait plus revêtir le sens de la coopération avec tous les États de la sous-région. N'oubliez pas, nous sommes dans la CIRG, nous sommes aussi dans la SADC. Qu'est-ce que nous adhérons à de telles organisations? C'est dans le sens d'avoir la stabilité non seulement interne, mais aussi dans la sous-région. Mais où sommes-nous?
Oui, mais Sylvain, si nous faisons un pas en arrière, lorsque l'Union africaine et même au niveau de la région ou de la sous-région, on avait levé l'option d'une brigade spéciale pour la question dans l'est de la République démocratique du Congo, mais composée uniquement des Africains. Est-ce que cela a donné des résultats?
Je dois d'abord dire que la première responsabilité de la sécurité d'un État est comme à ses gouvernements même. Mais maintenant, dans la coopération, on peut se dire oui, nous avons tel problème que nous devons juguler ensemble dans un contexte de la sous-régionalisation ou de la régionalisation des problèmes. Et bien, on peut mettre en place des mécanismes et des paramètres de sécurisation qu'on les a commis pour que nous puissions donner solution. Mais je vous dis, mon pays, la RDC, c'est l'objet d'une convoitise impossible. Et des fois, comme vous le savez, les gens qui ont fait les relations internationales vous le diront, la coopération internationale a toujours été ruinée par l'hypocrisie des États. Mmh. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une armée de plusieurs pays pour venir aider un autre État, mais à cause de l'hypocrisie et des intérêts cachés, on ne va pas arriver au résultat. C'est ce que connaît le Congo, le pays. Et c'est là où je suis dit, il nous faut d'abord une puissance militaire interne pour que nous puissions bénéficier du soutien. Parce qu'il y a des gens qui viennent chez nous, mais ils commencent à nous exiler. Et lorsqu'ils versionnent, tous les projets tombent. C'est ça le malheur du peuple congolais, c'est ça le malheur du Congo, puisqu'il y a des gens qui veulent que la RDC disparaisse de la carte du monde. Et nous devons prendre conscience, même si nous signons des accords, disons-nous d'abord la première responsabilité, et ce que je dis est constitutionnel.
Voilà, il y a un auditeur d'ailleurs qui nous a proposé un sujet, je crois que nous allons y réfléchir pour voir toute la nécessité et l'opportunité de ces sujets. Lorsqu'il nous propose la balkanisation, enjeu ou un grand défi pour la RDC, pour le développement de la RDC, je crois que nous allons voir tous les contours de ces sujets pour proposer au débat. Merci beaucoup Sylvain d'avoir appelé et nous retenons que pour vous, en revoyant l'anthropologie de cette rébellion dans la RDC, en d'autres termes vous êtes allé même plus loin pour dire la géographie de cette rébellion, on se rend compte qu'il faut, au lieu de la coopération militaire entre deux États, entre la RDC et un seul État, mais il faut plutôt qu'on puisse développer une bonne politique militaire régionale, de la sécurisation de la région et de la sous-région, pouvant aider tous les autres pays voisins. Merci beaucoup Sylvain d'avoir appelé 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous retrouvons Augustin Manguemossi. Professeur Augustin, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en géostratégie. Alors, vous êtes également analyste politique. Quand on a appris qu'il y a eu un meeting militaire au niveau de la RDC entre l'armée angolaise et l'armée congolaise, que cela peut nous inspirer? Les auditeurs qui ont intervenu avant que vous n'arriviez dans cette sur les ondes de Radio Capi ont beaucoup plus insisté sur un signal fort lancé par les régimes en place à l'endroit de ses partenaires politiques, notamment les FCC.
Oui, bonjour, cher JR, bonjour aux auditeurs de Radio Capi. Je voulais d'abord vous rappeler que, pas professeur, je suis chef de travaux. Le meeting aérien, c'est pas un débat. On ne peut pas débattre sur les questions militaires. Sous notre cieux, les questions militaires appartiennent aux stratèges de la défense nationale. On ne peut pas discuter d'un problème qui touche la souveraineté d'un État. C'est comme si on discutait des problèmes politiques, c'est pas ça. Vous savez que dans l'esprit de la défense nationale, vous avez la géopolitique qui relève de la politique à la fois nationale et internationale, mais vous avez la géostratégie qui relève d'abord de la politique militaire et qui dépend de la défense nationale d'un État. Ok, il y a un régime en place qui a trouvé bon de pouvoir organiser un meeting aérien avec un pays voisin, à l'occurrence l'Angola. C'est une très bonne chose. Le meeting aérien répond à ce qu'on appelle la dissuasion. La dissuasion. La dissuasion contre qui? Contre l'ennemi. L'ennemi ne peut pas être un ennemi politique. L'ennemi, ça doit être un ennemi militaire. C'est un meeting aérien. C'est d'abord un meeting militaire qui n'a rien à voir avec les combats politiques. Les combats politiques, c'est dans l'arène politique. Rien à voir avec les combats des armées ou des troupes. Non. Ça, c'est une lecture biaisée de la réalité. Un État souverain indépendant peut organiser des manœuvres militaires avec ses alliés, dans des coalitions, dans des organisations, comme il y a un auditeur qui venait tout à l'heure de parler de la sécurisation de la région dans son ensemble. Mais ça, c'est une bonne chose. Commençons d'abord par nous poser la question, est-ce que nous pouvons sécuriser la RDC nous-mêmes, ou dans un premier temps, nous avons besoin des amis, des voisins, jusqu'à ce que nous allons monter en puissance. Parce qu'une armée, c'est la puissance. L'armée monte graduellement. C'est pas exponentiellement, c'est graduellement. On doit d'abord avoir les moyens de la politique, mettre les moyens à la disposition de l'armée, permettre à l'armée de monter. Est-ce que le Congo a un livre blanc de la défense nationale? Il n'y en a pas. Vous avez déjà vu la loi de la programmation militaire. Vous l'avez déjà vu. Vous avez déjà vu la loi exécutée. Ce sont des problèmes politiques. C'est aux politiques de mettre à la disposition de l'armée les moyens de sa politique pour que l'armée réponde aux besoins de la population. La mission principale de l'armée, c'est la défense des territoires contre l'ennemi. Voilà. L'armée n'a pas une mission de pouvoir dissuader les politiques. Non. L'armée dissuade l'ennemi. Et l'ennemi, c'est l'ennemi à la fois virtuel ou physique. L'armée n'a rien à voir avec tout ce qui s'est fait sur le plan politique. L'armée a toujours été apolitique et l'armée restera politique. Voilà.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, c'est ce qui a été fait, c'est vrai, vous l'avez si bien dit, que ça n'a rien à voir avec la politique, mais lorsque les uns insistent qu'il s'agit là de disons, d'un avertissement lancé par le régime en place, par l'IDPS qui est au pouvoir, vis-à-vis de ses partenaires, parce qu'il y a une crise actuellement.
Bon, vous savez, il y a une chose. Hein. J'ai toujours préféré suivre ou laisser la place au porte-parole pour parler des questions qui touchent la défense nationale. Vous savez que, depuis un certain temps, beaucoup des Congolais ne font plus confiance à l'armée. Ils sont nombreux, hein. On doit se dire la vérité. Ils ne sont pas majoritaires, mais ils sont nombreux. Même s'ils sont 10%, c'est déjà beaucoup. Parce que la défense nationale, elle est à la fois civile et militaire. Quand nous protégeons le territoire national, nous tous, nous participons à la défense nationale. Mais quand une infime partie de la population pense que l'armée ne fait rien, l'armée doit démontrer à la population qu'elle est là et qu'elle s'occupe du quotidien des citoyens. C'est-à-dire, l'armée peut faire des manœuvres militaires, l'armée peut démontrer à la face du monde qu'elle est là. C'est pas un péché. Moi, je trouve mal qu'on associe des questions politiques aux questions militaires. S'il vous plaît, M. J.R., laissons les questions politiques aux politiciens et les questions militaires aux militaires.
Voilà.
Ça sera bien pour les Congos. On ne peut pas, à cause d'un climat politique, associer les bonnes intentions de la République par rapport à la politique. Non, le chef de l'État, je crois sincèrement, le chef de l'État pense à l'armée. Il pense que pour que le Congo se développe, pour que le Congo puisse se montrer à la face du monde, le Congo doit avoir une armée. Rappelez-vous des années 65 jusqu'aux années 89, 85-89, on avait une armée quand même. Et ces soldats-là sont là, ces militaires-là sont là. Qu'est-ce qui a fait défaut? C'est la politique n'a pas suivi. Les déclins de l'armée. La politique s'est préoccupée de la politique au lieu de pouvoir sécuriser les territoires nationaux. Nous avons des poches de résistance à l'intérieur du territoire. Nous avons des micro-rébellions, des macro-rébellions. Nous avons des groupes qui se disputent par des viols, des tueries. Il y a des gens à l'Est qui meurent pour rien. Alors l'armée est d'une manière ou d'une autre obligée d'intervenir. Or, cette armée pour intervenir a besoin de moyens. Maintenant, l'État congolais commence à donner des moyens. À défaut d'avoir les moyens, l'État fait appel aux amis, aux alliés, bien que les États n'ont que leurs intérêts. Mais quand vous n'avez rien, vous n'avez qu'à demander. Et demander n'est pas péché. Vous demandez en entendant de les en avoir. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Moi, je salue dès demain le meeting aérien. Je salue les manœuvres militaires entre la RDC et ses voisins dans le cadre de la convergence des armées.
Il y a un débat qui s'ensuit autour de ça. Parce que, bon, il y a une question. Est-ce qu'une invitation pareille, une invitation d'une armée étrangère pour intervenir sur notre sol, nécessite-t-elle un cutus de l'Assemblée nationale?
Ah non. Les questions touchant la défense nationale, d'abord, ce sont d'abord des questions qu'on ne traite pas à la place publique. Tout le monde le sait. C'est pas au Congo, on va commencer à débattre. Aller partout ailleurs, aux États-Unis d'Amérique, en France. Quand l'État est en difficulté, l'État intervient. Et l'État informe après. Et s'il faut déclarer la guerre, c'est alors qu'on ira devant les élus du peuple pour leur informer des intentions et des moyens à mettre à la disposition pour faire la guerre. Ça, c'est pas la guerre. Ça, c'est un meeting aérien. Ça, c'est l'état-major général.
Parce que l'histoire se répète, je crois que ceux de cette génération estiment que, bon voilà, il y a quand même une responsabilité de l'Assemblée nationale dans ce genre de décisions politiques. Lorsque nous revenons en arrière, on se rend compte que Vital Kamerhe, alors président de l'Assemblée nationale, lorsque Joseph Kabila invite l'armée, la troupe rwandaise, pour une patrouille mixte au niveau dans l'est de la République démocratique du Congo, disons certains députés sont montés au créneau pour fustiger ces comportements, pour dire que voilà, l'Assemblée nationale n'a pas été mise à contribution et que c'était violer la Constitution.
Oui, monsieur Gier, je vous dis, je le répète, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est un meeting aérien. Vous devez d'abord lire les accords de défense qui lient la République qui nous entoure. Hein. Lisez d'abord les accords de défense. Si dans les accords, il est prévu des meetings, des manœuvres militaires, pourquoi demander à l'Assemblée nationale? Pourquoi? Parce qu'il y a un accord qui a été signé. Pourquoi maintenant demander? Pourquoi demander? Parce qu'il y a un accord qui existe. S'il n'y a pas un accord, il appartient maintenant au l'état-major général de préparer un projet. Le ministre de la Défense nationale va amener le projet au gouvernement, le gouvernement à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale va adopter et le président va ratifier. Moi, je ne pense pas que à ce stade, on doit parler de est-ce qu'à l'époque de Vital Kamerhe par rapport à aujourd'hui. Non, autre époque, autre mers. Nous avons un problème, monsieur Gilles, nous avons un problème. Une grande partie du territoire national est entre les mains de gens qu'on ne sait même pas nominer. On ne sait même pas. Bon, Adès Jalou, etc., etc. On ne sait même pas les tenants et les aboutissants de tout ce qui se trame là-bas à l'Est. Qui sont les humanitaires, on ne le sait pas. Qui les manipule, on ne le sait pas. L'armée est là, quadrillant une ville, du matin au soir. 4 jours après, dès que l'armée se dégage, il y a des tueries. Il y a des complicités à la fois internes et externes. Il appartient au chef de l'État, les garants des institutions, de pouvoir proposer, mais aussi les cas échéants décider de comment faire survivre la nation congolaise. Mmh. Moi, j'ai toujours pensé que la nation est en danger. J'ai toujours pensé que la nation est en danger.
Merci beaucoup, monsieur.
Le Congo ne sera pas en paix. La région de Beni, de Mutembu font partie de la République démocratique du Congo.
Merci beaucoup, monsieur Augustin Vangemossi, 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité d'interagir sur notre page Facebook avec l'ensemble des compatriotes au pays et à l'étranger.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Voilà, il faut encore merci de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Capi, la fréquence de la paix, qui reçoit pour vous Alain Bolodjoua également. Alain Bolodjoua, vous nous avez rejoint. Bonjour, vous êtes à Kinshasa.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde. Je salue notre ami Sylvain.
Alors, que vous inspire cette coopération militaire congolo-angolaise avec ce meeting aérien?
Bon, j'ai suivi les uns et les autres et je me sens un peu mal à l'aise. En suivant le dernier intervenant, je sens qu'il y a beaucoup de confusion ou sinon il y a une volonté manifeste à ne pas cerner les vrais enjeux. La question principale que nous devons nous poser, pourquoi, qu'avons-nous gagné, qu'avons-nous cédé? Parce qu'en lisant l'article 91 de la Constitution, je me rends compte que nous relançons là les débats sur les compétences des institutions, sans peut-être le vouloir. Parce que le constituant a dit clairement, dans cet article précité, que la défense, l'intérieur et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre l'institution président de la République et le gouvernement. Ce qui sous-entend que les questions qui touchent à la défense ne relève pas de du pouvoir discrétionnaire d'un président. Ce sont des compétences liées qui voudraient assez que l'on débatte sur l'option à lever en matière de la défense avant que le président ne prenne la décision. C'est ça la philosophie de la Constitution. Et là, maintenant, il y a une juxtaposition du domaine de la sécurité, mais aussi des affaires étrangères. Parce qu'il y a un pays tiers qui est venu chez nous avec armes et militaires qui sont venus chez nous. On suppose qu'il y a eu un conseil des ministres qui a statué sur la question, bien qu'on ne pouvait pas donner tous les éléments, mais ce qui est vrai, cela ne relevait pas seulement de la question de la défense, parce que tout le monde a vu ce qui s'était passé.
Et il y a eu un oui, mais Alain, vous êtes à ignorer que le conseil des ministres ne se tiennent plus. Et nous avons fait non, même, mais, nous avons même
l'idée de ceci. C'est que sous-entend que le président de la République ne peut pas cumuler les deux fonctions, les deux institutions, les compétences des deux institutions à la fois. Si le conseil des ministres ne se tiennent plus, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de cadre d'harmonisation entre l'institution gouvernement et le président de la République. Ce qui sous-entend qu'il n'avait pas la compétence, le droit de prendre des décisions qui relèvent du Conseil des ministres et non de son institution. Il y a un autre élément. Quand on dit que non, voilà, il a lancé un message à ses partenaires, à ses ennemis de l'extérieur. Bon Dieu, ça c'est grave. Ce qui veut dire que vous voulez nous dire que M. Félix Tshisekedi a utilisé l'armée étrangère pour passer un message à ses partenaires. Je nous renvoie à l'article 198 de la Constitution. Il est dit ceci, en clair. Les forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la nation tout entière. Deuxième alinéa. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, le détourner à ses fins propres. L'intervenant qui est venu avant moi l'a dit. L'armée n'a pas pour mission de résoudre le contentieux ou le conflit politique. Alors, doit-on utiliser l'armée? Et encore grave, l'armée étrangère pour brimer ses partenaires politiques. On veut nous faire voir que M. Félix Tshisekedi veut utiliser une armée étrangère pour résoudre des questions politiques. Ce qui veut dire qu'il risque d'être frappé par l'article 198 de la Constitution. La deuxième question. Nous avons donné quoi à l'Angola pour que celui-ci arrive à nous envoyer ses militaires et ses équipements? Nous avons donné quoi? Et nous avons gagné quoi? La dissuasion, oui, nous sommes d'accord. Mais est-ce que sur base de ces meetings-là, on va résoudre le problème de l'insécurité dans la partie Est? Parce que si on voulait le faire, on devait le faire dans la partie Est, c'est pas à Kinshasa. Parce qu'à Kinshasa, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une guerre armée. Il n'y a pas un conflit armé. Alors, on ne doit pas mélanger le tout, on ne doit pas créer de confusion dans les esprits. Ce qui est vrai, M. Félix Tshisekedi n'a pas un pouvoir supraconstitutionnel. On ne doit pas confondre les attributions d'un président de la République dans une démocratie et un président dans un cadre despotique. Ici, nous sommes dans une démocratie constitutionnelle et les compétences sont d'attribution. Il n'y a aucune disposition de la Constitution qui consacre le pouvoir totalitaire à un président qui peut prendre des décisions à temps et à contre-temps sans consulter les autres institutions. C'est ce qu'on appelle le fractionnement des compétences.
Merci beaucoup, Alain.
Alors, on doit éviter de créer un dictateur alors que nous sommes battus tous pour réduire le pouvoir du président. On a fait le fractionnement des compétences. Les décisions qui doivent être prises au niveau du Conseil des ministres, il ne peut pas les prendre en dehors de ces cadres-là.
Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Alain. Merci beaucoup Alain d'avoir appelé de Kinshasa. Vous avez évoqué les deux articles. Je crois que les auditeurs qui nous suivent ont les devoirs à domicile, comme on les dit toujours, vous les avez donné, d'aller lire l'article 91 de la Constitution et l'article 198 qui parle des forces armées qui sont républicaines. Merci beaucoup Alain Bolodjoua et on va prendre Blaise qui est à Kindu, au Maniema. Alors Blaise, vous êtes avec nous? Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Bon, Blaise,
il y a des micros coupures. Est-ce que vous pouvez changer votre position de là où vous êtes pour avoir une très bonne communication?
Je viens de changer la position.
Voilà, allez-y maintenant. Allez-y, on va essayer.
Ça va, merci beaucoup. Monsieur de Radio Capi, pour l'occasion de vous accorder à cette intervenir à ce débat. La question
de... Voilà, dommage. On ne saura pas vous garder le plus longtemps possible par respect des auditeurs. Obed, vous êtes à Goma. Bonjour Obed.
Oui, bonjour Radio Capi et bonjour à tous les auditeurs de la radio qui nous capte de Kinshasa et partout ailleurs.
Alors, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, ma contribution serait que c'était important que cela soit fait, mais nous avions trouvé que c'est une petite intimidation de la part du pouvoir actuel qui est en train de faire ça, parce qu'on ne peut pas faire une gymnastique au niveau de la capitale pendant que les gens sont en train d'être tués. L'insécurité devient de plus en plus grandissante dans le pays. Mais on voit une gymnastique des avions de chasse et des avions de guerre qui est en train de se faire dans la capitale pendant que, bon, on ne sait pas si, est-ce que cette gymnastique, si on allait la faire dans des zones où il y a beaucoup plus d'insécurité, ça pourrait donner quel est le résultat. C'est une chose, c'est faire une chose et c'est au contraire. Pendant qu'on est en train de tuer les gens sont en train de faire la gymnastique avec les matériels qui pouvaient aider. Par exemple, le carburant qu'ils ont utilisé, ça pourrait aussi faciliter la logistique militaire pour venir faire une chasse à nos ennemis qui sont en train de vouloir déstabiliser le pays actuellement.
Voilà, merci beaucoup Obed d'avoir appelé de Goma et nous allons prendre également Marc qui est à Kiwanja au Nord Kivu. Marc, vous êtes avec nous?
Merci, oui, je suis là.
Quel est votre avis par rapport à ces débats?
Merci beaucoup. D'entrée des jeux, je voudrais juste montrer combien la République démocratique du Congo est en train de vivre une situation inédite et cruciale. Dans laquelle il faudra nécessairement gérer les dossiers, les différents dans le pays et non chercher à trouver les étrangers pour trancher nos problèmes ici en place. Parce que dans certaines de mes interventions, j'ai toujours dit que le couple qui a toujours les différents ne doit pas le traiter en dehors de son foyer, c'est irresponsable, mais plutôt les différents doivent être gérés au niveau même au sein du foyer. C'est-à-dire la République démocratique du Congo, surtout le gouvernement, devait faire tout pour équiper les forces armées pour que ces dernières soient à mesure de mettre fin aux groupes armés et surtout à cette insécurité qui est devenue grandissante au sein dans notre pays.
Merci beaucoup, Obed. On va prendre notre invité qui est en ligne. Alors, Mangebossi et Augustin, vous avez suivi les uns les autres. Quelle est votre réaction?
C'est ce que j'ai dit au début. Hein. J'ai dit au début que ce n'était pas un sujet qu'on devait discuter avec l'opinion dans son ensemble. Les questions de défense et de sécurité sont d'abord des questions stratégiques. Rien à voir avec la politique que nous discutons chaque jour. Vous voyez vous-même dans nos discussions, nos débats, tout se focalise sur les intentions. Les intentions. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai remarqué? Il y a un certain nombre de compatriotes, les auditeurs, qui prêtent des mauvaises intentions au chef de l'État par rapport à ces meetings aériens. Mais laissez-moi vous dire une chose. À une armée, faire aussi ce qu'on appelle les entraînements, c'est-à-dire ce qu'on appelle le manœuvre militaire. L'armée congolaise a repris les poils de la bête. L'armée congolaise se prépare à défendre efficacement le territoire national. Et cette armée doit faire des entraînements, des manœuvres à l'interne, soit avec les armées étrangères, soit avec ses propres troupes.
Oui, monsieur Augustin, quand vous évoquez les intentions, lorsque Alain Bolodjo insiste sur les deux articles, l'article 91 de la Constitution et l'article 198, alors comment réagissez-vous?
Mais qui les a violés? Je vous avais dit ceci, monsieur. Est-ce que vous avez lu l'accord de défense qui lie la RDC avec ses voisins ou vous avez déjà lu l'accord de défense et de sécurité de la RDC avec la communauté de SADC? Vous avez déjà lu un certain nombre d'accords de défense en notre pays, un certain nombre de pays dans le monde, y compris les États-Unis d'Amérique? La plupart de nous n'ont jamais lu ça. Vous devez d'abord commencer par lire ces accords, s'il y en a. Et si vous lisez les accords, vous allez comprendre ce qui se passe. Moi, je pense qu'il ne faut pas, à ce stade, que nous-mêmes nous soyons à la fois les optimistes et à la fois les défaitistes. Laissons maintenant la place à l'armée de pouvoir sécuriser les territoires. Moi, je reste du côté simplement de la sécurité des biens et des personnes sur le territoire national. Les débats politiques ne m'intéressent pas. Moi, je pense que le moment est venu pour l'armée congolaise de montrer ses biceps. Le moment est venu pour l'armée de pouvoir faire la guerre. Vous savez que il y a un auteur, Carlo von Clausewitz, qui a dit que le gouvernement était inséparable de la guerre. C'est clair. Le rôle central d'un gouvernement, c'est de faire la guerre. C'est-à-dire le gouvernement congolais doit se préparer à faire la guerre. Et ne posez pas la question au gouvernement pourquoi est-ce qu'il fait la guerre. C'est le gouvernement qui vient devant le Parlement pour expliquer pourquoi il va faire la guerre ou pourquoi il a commencé à faire la guerre. Mais le gouvernement ne peut pas venir dans un truc comme ça. Non, je vais faire la guerre, est-ce que vous voulez? Non, mais si nous sommes attaqués, vous pensez qu'on va, on va convoquer la plénière très tard la nuit pour demander l'autorisation avant d'aller en guerre? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il nous appartient à nous, les Congolais, de comprendre que nous avons un grand pays qui est convoité, qui est envié, pas simplement par le multinational ou les occidentaux, mais aussi par cet homme nombre de voix.
Oui, oui, alors, monsieur Mangomo aussi, parce qu'on va terminer avec vous rapidement, le temps d'écouter Marie-Paul, Marie-Paul qui nous a appelé rapidement à Kisangani, et il veut placer justement. Marie-Paul, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, monsieur le journaliste.
Oui, et quelle est votre réaction, Marie-Paul?
Oui, monsieur le journaliste, moi je pense que les manœuvres militaires sont des actes licites et reconnus par les droits internationaux, voire la géostratégie. Mais toutefois, les meetings aériens faits par la coalition militaire RDC et Angola constituent à juste titre une diversion stratégique et politique. En fait, la RDC, c'est un pays qui a un problème sérieux de la sécurité. C'est un état déchiré par les rébellions multiples. Et face à cette situation, je pense que la RDC doit plutôt faire un partenariat stratégique possible de traquer tous les rebelles qui sont en train de sévir, de déranger le pays afin que ces rebelles-là soient anéantis. Et stratégiquement, ces meetings, les meetings qui s'est passé le 20 novembre sur l'espace aérien congolais, c'est un événement inutile parce que on n'a pas besoin de toutes ces démonstrations. On a aujourd'hui, la RDC doit mettre en place une armée forte et une armée professionnelle pour traquer tous les militaires, tous les rebelles qui sont en train de déchirer le pays. Et ces manœuvres-là qu'on a fait, toutes ces démonstrations, devraient être concrétisées par la traque des rebelles. Mais lorsqu'on doit les faire en ville, justement faire pilonner les navires les avions de guerre, ça n'a rien à voir. La situation est vraiment à l'impasse, le pays est à l'impasse, le pays est dans l'insécurité totale. Je pense que stratégiquement, les pays, les gouvernants doivent plutôt peaufiner des stratégies pour traquer des rebelles.
On voilà, merci pas beaucoup Marie-Paul, on ne saura pas aller plus loin avec vous. Merci beaucoup. Alors, Augustin Mangemossi, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir après avoir écouté les uns et les autres?
Ce que je retiens, il faudrait que les Congolais se fassent confiance entre eux. Nous devons nous faire confiance et nous devons aller de l'avant. C'est-à-dire s'il faut que nous solidifions la RDC, nous devons le faire par ça de notre armée. Si le moment est venu de pouvoir donner les moyens à l'armée pour le faire, moi je pense qu'il faut le faire. Dans ce meeting aérien, je trouve que c'est une démonstration. Vous savez que la démonstration, c'est aussi la dissuasion. C'est-à-dire dire à l'ennemi que voilà, nous nous préparons à venir nous affronter. Et je pense qu'ils l'ont fait ici, ils vont aller le faire selon ce qu'on nous a dit, ils vont aller le faire à l'Est. Moi, je pense que quand ils seront à l'Est, ce ne serait plus un meeting aérien, ça sera maintenant la guerre. Parce que si ils font un meeting aérien au-dessus de l'Est de Beni, ils peuvent rencontrer une résistance. En ce moment-là, les avions, ils vont tirer, ça sera la guerre. Voilà, il y a eu un meeting aérien à Kinshasa, parce que Kinshasa n'a rien à voir avec la guerre, mais à l'Est, ça sera la guerre. Je souhaite que l'armée aille de l'avant et je souhaite aussi que les uns et les autres comprennent que c'est pour nous le moment de pouvoir nous préparer à faire la guerre pour pacifier le pays dans son ensemble.
Voilà. Merci beaucoup Augustin Mangemossi, vous êtes chef des travaux des universités et aussi expert analyste politique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on va se quitter par ici en disant merci également à Dieudonné Nyangassa et à Marcel Ngombo-Bala qui ont tous deux concouru à la production de cette émission Parole aux auditeurs coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très vite pour un autre numéro.